Bonjour et bienvenue sur EDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Sabrina à la technique. Bonjour Sabrina. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez en direct sur 98.00, web radio sur 98.fr, DAB+ pour toute l'Île-de-France ou sur notre appli dans le monde entier. Appel à projet Innovation Label, aujourd'hui vendredi 29 mars 2024, dans ce nouveau numéro de l'économie en direct, rendez-vous avec deux institutions incontournables du Val d'Oise, l'université CYU et la CCI du Val d'Oise. Des entités dont le quotidien n'est autre que la valorisation du territoire, chacune dans leur domaine. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Romain. Bonjour Olivier.
Bonjour Jacqueline.
Ravi de vous accueillir de nouveau à notre antenne. Vice-président de CYU Innovation et Transfert, manager du PUI CY Transfert, manager du bureau CY Transfert, avec nous pour tout savoir sur ce PUI, pôle universitaire d'innovation, porté par CY Cergy Paris Université. Un label désormais acquis et dont vous nous décrypterez les enjeux et la stratégie. À vos côtés, Pierre Derico. Bonjour Pierre.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Alors Pierre, merci déjà pour votre fidèle participation à l'économie en direct, responsable du département commerce et territoire à la CCI du Val d'Oise, chambre de commerce et d'industrie. Vous êtes en charge, Pierre, de l'évolution de l'ensemble des commerces du Val d'Oise, commerce de détail en magasin, avec nous ce matin parce que ça y est, c'est reparti, le jeu concours pour soutenir les restaurateurs et métiers de bouche du Val d'Oise lance sa 3e édition. Et nous avons hâte d'en savoir plus.
Voilà, depuis le 16 mars dernier.
Alors, bienvenue à tous les deux. Merci de participer en direct à ce nouveau numéro de l'économie en direct. Et tout de suite, je vais également donner la parole au général François Daoust. Bonjour, général. J'ai perdu le général.
Non.
Vous êtes là, merci. Je ne vous entendais pas.
Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour François. Merci de participer à cette émission. Alors, vous êtes le directeur de CY Forensic School de l'Université de Cergy Paris, directeur du CREOGN, Centre de Recherche de l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale. Vous-même, donc général de gendarmerie, avez dirigé le PJGN, pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, un pôle unique d'expertise dédié à la criminalistique et à l'intelligence judiciaire, dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire français. Et puis, je ne résiste pas au fait de dire que vous êtes auteur d'un ouvrage qui vient de paraître et intitulé « Police technique et scientifique, le choc du futur ».
C'est gentil, oui.
Alors avec nous ce matin, François, parce que vous êtes pour nous parler d'humanité numérique, une discipline qui vient d'être lancée entre CYU et la gendarmerie afin de porter un regard complet sur les cultures numériques et tous les enjeux liés aux nombreuses transversalités qui vont en découler. Pour introduire le sujet, je voulais préciser que donc cette discipline est l'objet d'une chaire, la chaire Humanité numérique, dont la leçon inaugurale a eu lieu il y a quelques jours et a marqué son lancement officiel. C'est bien ça?
Tout à fait, oui. Le 14 mars, pour être précis, à l'école militaire, à l'occasion d'un forum international. Et avec Olivier Romain, nous avons fait à deux voix cette présentation, cette leçon inaugurale qui se veut introduire les sciences sociales et humaines, oui, dans le monde du numérique qui finalement est notre monde maintenant au quotidien. On ne s'en rend plus compte, on est un petit peu comme dans la grenouille qui est dans un bocal et on fait chauffer l'eau et qui ne s'en rend pas compte. Mm-hmm. Nous vivons complètement dans un monde numérique et ce monde numérique, eh bien, nous transforme notre société, transforme nos comportements et il va falloir appréhender ce nouvel espace, ce nouveau territoire, à la fois avec des outils numériques pour pouvoir le dominer et l'utiliser, mais également avec cette compréhension de la transformation de nos comportements et de nos relations sociales, puisque elles sont maintenant plus numérique que réel.
Oui, absolument. Alors, la question que je me pose, en tout cas pour nos auditeurs, pourquoi une chaire?
Parce que l'avantage d'une chaire de recherche, c'est proposer à des partenaires industriels, des sociétés qui à la fois développent des outils, mais sont baignées, elles aussi, ces sociétés, dans ce monde-là, ont besoin de clés de lecture, ont besoin de développement de nouveaux logiciels, de nouvelles techniques pour pouvoir répondre à la demande, mais aussi à la sécurité de chacun comme de leurs propres entreprises. Et ce partenariat, qui est fait sous forme de mécénat, doit permettre à l'université CY, à la gendarmerie et aux partenaires privés, eh bien, ensemble, de se poser les bonnes questions et de lancer les travaux de recherche pour arriver à trouver à la fois ces produits, mais également de nouvelles procédures et de nouveaux procédés pour, un, le mieux vivre ensemble, se protéger et à avancer dans ce monde qui, finalement, est encore comme un Far West. C'est ce que j'appelle, moi, le Far Web,
avec un peu d'image. Oui, c'est une bonne, c'est une, un bon raccourci. Alors, humanité numérique, moi, j'ai envie de dire que c'est presque un oxymore.
C'est un oxymore à partir du moment où on considère que le numérique a envahi totalement notre humanité et que nous ne sommes plus finalement qu'une suite d'octets. On n'en est pas encore là, même si certains espèrent bien que le transfert de notre conscience puisse se faire à travers un outil numérique ou au-delà d'un outil, c'est-à-dire une conscience numérique qui serait la réplique de ce que nous sommes, mais que ce soit l'homme augmenté, autant en médecine, on voit bien les progrès que ça pourrait apporter, autant si ça dérive, on ne sait pas vers quoi ça peut aller, et on voit derrière que finalement, à vouloir trop d'humanité dite numérique, on en perd notre humanité, notre essence, tout ce qui fait l'ontologie autour de l'être humain, eh bien on risque de le perdre.
Oui, parce que bon, vous l'avez dit, le numérique est en effet partout, mais s'ajoute à cela l'intelligence artificielle, bien évidemment, avec tous les dangers qui sont liés sur l'impact humain.
Exactement. Cette suite, ces suites algorithmiques qui fabriquent ce qu'on appelle plus communément l'intelligence artificielle semblent être cet Eldorado, mais derrière, on voit bien que on ne sait pas forcément ce qu'il y a dans la boîte noire. Donc, est-ce que les réponses apportées, est-ce que le comportement apporté est le plus adapté? Ça, c'est une première chose. Deux, ça peut être détourné, et c'est déjà détourné, à des fins malveillantes.
Oui,
on voit bien que toutes les fausses images qui inondent les médias, eh bien, sont construites avec ça. On sait que des cybercriminels, à partir d'intelligence artificielle, construisent des virus, de quoi faire des attaques logiques, etc., etc. Donc, derrière, bien, cette intelligence artificielle, qui a son côté sombre que j'ai à peine ébauché, peut avoir aussi son côté expert et aider les forces de l'ordre et les entreprises à lutter contre ce type d'agression également. Donc, voit bien que c'est une course à l'armement également, de bénéficier de l'intelligence artificielle, mais de s'en protéger également.
Alors expliquez-nous, décrivez-nous les objectifs, vous venez de l'évoquer bien sûr, mais plus précisément tous les objectifs qui vont être mis en place grâce à cette chaire.
Alors avec les partenariats, c'est déterminer quels sont les besoins déjà de nos partenaires, des entreprises, qu'est-ce qu'elles veulent, dans quel domaine exactement, et quel est l'impact du numérique dans ces domaines. Donc à partir de ce moment de ça, c'est lancer des recherches, et au regard du nombre de laboratoires universitaires, et Olivier pour en parler beaucoup mieux que moi, on peut travailler là-dessus. Mais nous avons également derrière l'impact social et sociétal que ça va générer dans nos comportements. Et quels sont les besoins des forces de l'ordre?
Oui, c'est
donc,
ça.
On voit bien que la recherche, elle est multifacteur et elle recouvre la sécurité en général, la sécurité des entreprises, les nouveaux outils qu'ils peuvent mettre ensemble, recréer du lien social et sociétal, pas forcément uniquement à travers le numérique, mais avec bien finalement une bonne réunion présentielle, ça permettra de revoir des vrais visages et non plus des visages figés par manque de flux ou autre en visio. C'est tout un ensemble derrière qui va y avoir pour ces recherches. Donc définir les sujets de recherche avec les partenaires industriels et les sociétés, avec les forces de l'ordre, et derrière tout ça, c'est lancer des doctorants, des laboratoires sur les sujets qui vont être proposés, et on voit bien qu'une recherche à la fois fondamentale, appliquée, eh bien, apportera des réponses et des éléments de développement pour tout le monde.
Oui, je pense que le but, c'est de s'inscrire, parce que ça va être, on en revient aussi à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est des millions de données qui vont être analysées et vous permettre justement de résoudre peut-être des affaires oubliées ou de s'inscrire dans la durée.
Alors, ça, là-dessus, vous parlez de l'aspect purement judiciaire,
oui.
Et qui est très important. Mais derrière cet aspect judiciaire, il n'y a pas que celui-là. Il y a celui de la protection, il y a celui du développement de nouveaux outils, il y a des besoins propres aux entreprises. Donc on a ce traitement d'informations où on a des brontodonnées, c'est-à-dire qu'on a dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer en cumul de données quotidiennes qui doivent être traitées. Donc c'est comment les traiter, avec quels moyens, avec quel algorithme pour pouvoir en ressortir quelque chose d'exploitable, c'est-à-dire qu'on doit avoir la connaissance aussi de ce que traite l'algorithme, de ce qu'il va retenir, est-ce que c'est pertinent ou pas, parce qu'au final, si on ne sait pas quel est le moteur qui va alimenter l'algorithme pour avoir des résultats, on peut avoir des résultats totalement biaisés.
Oui, oui.
Et donc là-dessus, c'est aussi un gros problème. Savoir qu'est-ce que exploitent ces algorithmes.
Et donc, au niveau du financement, vous l'avez évoqué, il est exclusivement fait appel au mécénat d'entreprise.
Tout à fait.
Qui pour ces entreprises vont bénéficier de défiscalisation, c'est tout l'intérêt.
Voilà, tout à fait. Et là, il y a un rescrit fiscal qui a été donné par l'administration fiscale à la chaire, et les avantages fiscaux sont très très importants. Et au-delà de l'avantage fiscal, c'est les entreprises qui s'associent avec la gendarmerie et CY pour avoir, d'abord une lisibilité extérieure. C'est un engagement pour la sécurité de tous, en plus de sa propre sécurité. C'est un engagement pour participer au développement et s'inscrire dans ce nouveau monde numérique. Mais voilà où est-ce que je me situe et quels sont mes partenaires officiels. Et bien sûr, c'est je propose, puisque je suis un mécène, aussi des sujets qui m'intéressent en propre, parce que j'ai besoin d'avoir un autre regard que celui de ma propre entreprise sur moi-même. C'est les regards croisés qui sont tout aussi importants que ce que l'on peut faire seul dans son coin.
Et ce qui est important de dire, c'est que donc vous serez en capacité d'accompagner des entités de toute taille. Ça ne va pas s'adresser qu'à des entreprises, parce qu'on peut, compte tenu de l'ambition du programme, on peut imaginer que ça ne s'adresse qu'à des grosses entreprises, mais ce n'est pas le cas.
Non. On a certes un partenariat qui commence à se faire avec grosses entreprises qui ont répondu présent, mais pour nous, c'est tout aussi important d'avoir des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes, etc., parce que finalement, le tissu sociale et industrielle est représentée par toute forme d'entreprise. Et on voit bien que des petites entreprises peuvent avoir d'excellentes idées, mais des difficultés majeures pour seules développer des recherches. Donc, c'est l'occasion de s'appuyer sur toute une structure universitaire et une grande administration comme la gendarmerie pour voir émerger des travaux de recherche qui intéressent les tout-petits. Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis là.
Non.
Souvent, les excellentes idées viennent de petites entités, mais n'arrivent pas à aboutir parce qu'elles n'ont pas, un, les moyens, deux, et elles n'ont pas l'audience. Et là, on leur offre tout ça.
C'est ça. Le but de la chaire, par définition, c'est l'excellence, c'est le fait de faire appel à des talents reconnus. Donc voilà, ça crée tout un écosystème qui permet aux entreprises d'asseoir leur notoriété, voire de développer leur marque employeur.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Parlons de l'organisation, François Daoust. Vous êtes, vous, avec Olivier Romain, vous êtes co-titulaire de cette chaire. Je vous laisse nous décrire également son organisation.
Alors, l'organisation, c'est un partenariat qui existe depuis déjà plusieurs années entre la gendarmerie et l'université de CY. Mmh. Et au-delà de ça, la gendarmerie a confié au centre de recherche de l'école des officiers de gendarmerie, qui va se transformer dans les prochaines semaines. Il y a un arrêté ou un décret qui va sortir. On prend du galon, en quelque sorte, puisque nous passons centre de recherche de la gendarmerie nationale.
D'accord.
On n'est plus, c'est-à-dire, on couvre l'ensemble de la gendarmerie dans cet aspect-là. Et avoir le centre de recherche et l'université, avec deux co-titulaires, c'est s'appuyer sur les structures des uns et des autres. Et on a pour cette chaire créé des collèges. C'est-à-dire que vous avez bien vu que l'ensemble des du monde numérique est tellement important, avec les sciences sociales, la technologie, les sciences exactes qui sont derrière. Eh bien, on a créé des collèges, qui est le collège éthique, par exemple, qui va être confié à même chose, à la fois un universitaire et aussi un représentant de la gendarmerie qui en a besoin. Dans qu'est-ce que c'est le juridique dont on a besoin, est-ce que le droit doit évoluer, est-ce que la philosophie derrière doit être plus que sous-jacente, elle doit mettre des garde-fous, parce que on en parlait, l'ogme augmenté peut avoir des dérives au-delà de la médecine. Ces deux personnes vont développer les travaux, les recherches sur tous les sujets avec qui seront abordés. On a tout ce qui est le sujet derrière forensique, la recherche, la sécurité.
Oui,
vous en parliez, les enquêtes judiciaires, comment elles peuvent être améliorées. Mmh. De même chose, professeur d'université et spécialiste de l'enquête judiciaire ou de la forensique. On a tout ce qui est le numérique proprement dit, avec les développements, et là-dessus, Olivier Romain en parlera beaucoup mieux que moi, c'est quels sont les outils à développer pour, un, la sauvegarde, deux, pour créer une architecture, que ce soit dans une entreprise ou une architecture beaucoup plus globale, dont on parle actuellement des villes connectées,
oui,
et des voitures.
Smart City, oui.
Voilà. Il faut protéger les données, il faut éviter le piratage, il faut éviter le blocage d'une ville qui ne serait plus pilotée comme une maison en domotique. Donc, si on débranche le courant ou si on introduit des virus, on voit bien qu'on a un effondrement de toute l'architecture numérique. Là-dessus, même chose, on a un collège qui est prêt à développer toutes les recherches qui seront proposées par les partenaires et par qu'ils soient industriels et la petite entreprise comme la grande, avec d'un côté les forces de l'ordre, mais aussi tout ce dont on a besoin en sécurité et un cyber. Voilà un petit peu cette architecture basée sur des collèges. Avec Olivier, on peut beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout. Et c'est pour ça que la chaire de recherche est divisée en collèges qui est, eux-mêmes sont avec des spécialistes à leur tête.
Très bien. Alors, le propre aussi d'une chaire, c'est qu'elle est instituée pour une certaine durée. Cette chaire UNUM, c'est va à une première durée de 5 ans.
Oui. Oui, on a voulu une première durée de 5 ans. Généralement, elles sont de 3 ans, mais 3 ans, c'est déjà trop court
oui, oui.
Pour pouvoir, un, sortir les bonnes idées, deux, les mettre en œuvre et avoir les premiers résultats de travaux. Oui. C'est 3 ans, on est à peine aux prémices et on se pose la question en disant ben oui, finalement on n'a pas arrivé à grand chose et souvent beaucoup de chaires sont enfermées dans ce piège des 3 ans, alors que 5 ans, eh bien on voit bien ce que ça peut lancer et développer.
Écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir en reparler, d'avoir des résultats justement, enfin en tout cas des prémices. La question que je voulais vous poser aussi, Général, c'est est-ce que cette chaire aura vocation à susciter la création de nouveaux métiers ?
Ah ben écoutez, ça, les nouveaux métiers, ils se créent au quotidien,
oui,
avec le développement du numérique. Et si je pense que on va trouver, au fur et à mesure des développements des travaux de recherche, des besoins qui initialement, bien, il n'y avait pas de métier, ou en tout cas, il n'y avait même pas de développement, vont nécessiter et de une nouvelle compétence, donc de nouveaux métiers.
Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, sauf s'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous souhaitiez répondre.
Non, la question, c'est même pas une question. On est à fond là-dedans.
Il faudrait qu'on,
et on espère bien qu'on va arriver à convaincre beaucoup de partenaires, parce que c'est une occasion de développer, pas seul dans son coin, mais tous ensemble, et mettre notre marque dans ce monde qui est devenu le nôtre.
Très bien. Merci beaucoup François Daoust pour cet éclairage. On retiendra qu'une chaire, c'est avant tout une relation construite dans la confiance et la durée entre une entreprise et le monde académique, afin que chacun en retire des bénéfices mutuels. Merci infiniment. J'espère que la prochaine fois, on s'y prendra mieux pour que vous puissiez être dans nos studios.
Bon, c'est uniquement factuel,
oui.
Où, entre deux déplacements, je pouvais pas.
Oui, j'ai bien compris.
Physiquement, mais sans ça, je voulais pas rater ce rendez-vous très, très important qui permet à chacun d'échanger aussi.
Merci infiniment. À bientôt, j'espère.
À très bientôt.
Au revoir.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct et peut-être qu'on va faire une pause après cet entretien très instructif avec le général François Daoust. À tout de suite.
Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boères. Et les vrais roudoudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur mon banc, 5 minutes avec toi et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis bas, je n'ai que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
L'économie en direct de 9h30 à 11h les mardis et vendredis.
Mistral gagnant par Cœur de Pirate que nous aimons beaucoup et pour Renaud et pour Cœur de Pirate. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin deux poids lourds du territoire sont dans nos studios l'université de Cergy Pontoise et la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Avec moi, Olivier Romain, vice-président de CYU, Innovation et Transfert, manager du PUI CY Transfert, manager du bureau CY Transfert. Et avec nous, pour tout savoir sur le fameux PUI dont on parle depuis plusieurs mois chez IDFM Radio. À ses côtés, Pierre Dericot, responsable du département commerce et territoire à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, en charge de l'évolution de l'ensemble des commerces du Val d'Oise, commerce de détail en magasin. Et nous venons d'interviewer François Daoust, co-titulaire avec Olivier Romain de la chaire UNUM. Olivier Romain, on peut dire que ça y est, c'est parti, enfin ce PUI, il vous a fait souffrir, mais ça y est, l'université est enfin labellisée.
Ça y est, on peut dire qu'il est relabellisé. Rebonjour Jacqueline, rebonjour à tous. Donc effectivement, c'était un travail de longue haleine pour un poids lourd comme Cergy par l'université, de répondre à cet appel à projet du gouvernement qui a été lancé en décembre 2022. Ça nous a pris un an de travail acharné pour pouvoir répondre à ce cahier des charges qui était assez contraint, pour lequel on a été auditionné deux reprises par un jury national avec une dernière évaluation qui a eu lieu au mois d'octobre 2023.
Ah oui, c'est tout récent donc.
Tout récent, la correction en fait de notre copie en octobre 2023 et le lancement officiel le 9 janvier 2024. Donc on y est, ça y est, c'est lancé, ça fait à peu près maintenant 3 mois que c'est lancé ce PUI. Alors, on n'a pas attendu le lancement officiel du PUI pour le lancer, bien évidemment, puisque en même temps qu'on l'a co-construit avec des partenaires, ce PUI, dont notamment la CCI 95, qui est à mes côtés aujourd'hui, qui est un partenaire important pour ce PUI de territoire,
oui.
Nous avons co-construit, en fait, cette feuille de route, ce programme d'action qui est très ancré sur l'innovation. L'innovation sur un territoire qui est assez étendu, en définitive, qui n'est pas que sur le département 95, puisqu'on a des partenaires régionaux, mais aussi des membres fondateurs avec une couverture nationale et internationale.
D'accord. Alors, ce PUI, on reviendra sur les fondateurs et les partenaires. Dire que c'est basé sur une logique d'examen et non pas de concours. Et c'est ce qui fait peut-être la différence dans la... Non ?
La philosophie a changé en fait cours de l'appel à projet. On était plutôt sur un aspect concurrentiel au départ et au final on était plutôt sur un examen. Donc comme tout appel à projet, il a fallu y répondre, passer un premier levier en fait.
Donc pour vous un concours finalement.
Un concours et ensuite on peut dire que les présélectionnés ont été accompagnés pour sous forme d'examen en définitive. On l'a su à la fin du deuxième jury que c'était plutôt un examen et plus un concours en fait.
Et donc dire aussi que ce PUI a été lancé, comme vous l'avez dit, par le gouvernement dans le cadre du plan France 2030, une politique ambitieuse en faveur de l'innovation et de la création de start-up, et qui doit être géré, j'imagine, comme un écosystème local d'innovation performant. C'est-à-dire que chaque université va développer elle-même son écosystème.
Complètement. Alors, ce qu'on peut peut-être redire, c'est que, on va dire, ce plan Deep Tech, qui émane de notre gouvernement, c'est une volonté présidentielle quand même de faire de la France une terre d'innovation, une start-up nation qu'on peut trouver aussi comme dans d'autres pays. Donc, cette vision, en fait, et cette ambition a été développée dès 2022, lors d'un congrès d'Emmanuel Macron à l'ouverture de Big en 2022, dans lequel, en fait, il a annoncé cette vision d'aller sur cette Startup Nation et de donner les moyens en fait au pays de pouvoir effectivement aller dans cette trajectoire, notamment avec les PUI. Alors les PUI sont un outil, sont un label d'excellence qui récompense, on va dire, un consortium. Donc il y en a 29 en France. Toutes les universités ne sont pas PUI.
C'est ça,
Donc 29 PUI en France. Donc ce premier outil, et en même temps doté aussi la BPI. De moyens supplémentaires pour accompagner aussi le développement de ces PUI, mais d'autres outils pour renforcer l'innovation à travers des programmes nationaux.
Un label, j'imagine, très convoité. Avez-vous eu connaissance du nombre de candidatures ?
À un moment, bon, je voudrais pas dire de bêtises, mais à un moment, on était plutôt sur 37.
Ah oui.
37 dossiers à la... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, ça a été très vite. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'appel à projet est sorti en décembre 2022, pendant les vacances, ou juste avant les vacances, il a fallu répondre le 20 janvier 2023.
Il fallait construire tout de suite.
Donc, il fallait déjà avoir en fait des partenaires stratégiques pour pouvoir donner une première copie. Donc, il a fallu être un peu en mode commando.
Ça a dû être une période incroyable.
Donc, effectivement, 37 ou 36 dossiers ont été remontés, mais en définitive, c'est pas la totalité de toutes les universités. Et certaines ont été prises de court.
Donc, on espère
qu'il y aura un deuxième appel à projet PUI pour toutes les universités qui n'ont pas pu y répondre.
Qui seraient à même de répondre d'une façon positive. Alors, cette démarche dont on a parlé, le plan France 2030, c'est aussi veut répondre à des attentes et des besoins réels au profit de la société et de l'économie, c'est-à-dire stimuler l'emploi, renforcer la productivité, accroître la compétitivité des entreprises françaises. Donc, vous, ça vous donne l'occasion d'aller travailler dans multiples secteurs ?
Complètement. Alors, nous, en fait, effectivement, l'objectif, c'est de répondre à ces trois orientations, mais aussi, c'est un quatrième dans le cadre des PUI, c'est celui, en fait, de renforcer le nombre de start-up qui émanent, en fait, de nos structures de recherche. Donc, ça, c'est un des objectifs, de pouvoir valoriser mieux les activités académiques, à travers la création de start-up ou des aspects de licensing sur des brevets.
Les filières qui vont être exploitées, donc il y a l'eau, l'hydrogène, la mobilité, on en parlait avant l'émission, la gastronomie aussi.
Complètement.
Donc, c'est-à-dire il y a pas de limite.
Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on a fait le choix de ne pas être un PUI thématique.
D'accord.
Pour se donner toute l'attitude de travailler avec les partenaires, d'aller en fait sur une voie, sur
ne
une
pas vous enfermer,
privilégiée parmi d'autres. D'autres PUI ont fait le choix parce que ils l'incarnaient déjà. Ils l'avaient mis dans leur domaine stratégique de développement au niveau des universités. Et donc, en fait, c'était de renforcer ces stratégies. Nous, à Cergy Paris Université, en définitive, on a à la fois un 360 degrés bientôt avec la future fac de médecine. Donc, on va couvrir tous les domaines. Donc, on a en fait 27 laboratoires qui couvrent ces domaines-là. Et en même temps, on n'a pas un axe privilégié. Donc on se donne en fait toute latitude. Et donc en fait, au niveau du PUI, vous avez évoqué l'hydrogène, l'eau, la mobilité, parce que elles s'inscrivent en fait dans des filières stratégiques de la région Île-de-France, même dans des filières stratégiques nationales ou des stratégies nationales d'accélération. Donc effectivement, on va aller dans cette voie-là et on va mettre un accent particulier en 2024 sur deux filières qui vont être l'eau dans un premier temps et l'hydrogène dans un second temps. À travers, en fait, un outil qu'on va développer, ce sera des clubs de partenaires industriels, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en rediscuter.
Ah oui, volontiers, d'une volontiers.
Prochaine émission. On a créé, en fait, une chaire sur l'eau, oui. Avec un programme, le programme Excellence qu'on porte, CY Génération et le CRMA. Et on a déjà des partenaires industriels qui veulent rentrer, en fait, dans cette chaire de l'eau. Comme la chaire dont François Daoust a parlé précédemment, on peut avoir des partenaires industriels, mais aussi des partenaires étatiques.
Bien sûr. Alors, j'allais vous poser la question. Donc, le CRMA, c'est un partenaire, solide, hein. Nous l'avions évoqué déjà avec Pierre Vist, hein, quand il était venu la dernière fois. Est-ce que c'est, vous avez le sentiment que il y est pour beaucoup aussi dans l'obtention de ce label?
Tout seul, on ne l'aurait jamais eu.
Oui.
Voilà, donc on a réussi à agréger 59 partenaires au niveau de ce PUI. On en est maintenant à 62. Voilà,
d'accord,
au moment du dépôt final en octobre, on était à 59, on en est à 62. Ça commence à porter ses fruits, en fait, tout ce qu'on développe. On a de plus en plus de personnes qui toquent à notre porte du PUI. Et effectivement, en fait, quand on a construit, en fait, ce PUI, on s'est dit, mais tout seul, on va jamais y arriver. Il faut qu'on embarque le CNRS, qui a une couverture nationale.
Oui.
Et international, avec une renommée internationale, bien sûr. Et puis CRMA, qui est un acteur qui est très important, en définitive, vis-à-vis de la valorisation, puisqu'ils ont une proximité directe avec le terrain des collectivités territoriales ou autres structures pour l'aménagement territorial, la mobilité. Donc effectivement, ça faisait sens, d'autant plus que le CRMA, on a déjà des programmes avec eux, on a un laboratoire commun avec eux, une UMR, une unité mixte de recherche, et donc ça a été très vite, on s'est mis d'accord sur une feuille de route, et effectivement on a porté avec la SAT Erganeo,
oui,
la construction de ce PUI.
Très bien. Olivier Romain, je vous propose de faire une pause et après on parlera des objectifs et à quelle échéance, et puis aussi comment vous allez sélectionner les startups qui vont accompagner votre projet. À tout de suite.
Sans répit, on me critique sur mon style de vie, mon sens esthétique. On dit qu'on est froid, qu'on est fait de pierre. Il n'y a rien d'autre dans le coq, sa maudite carrière. On me reproche, entre autres, de ne voir la tête qu'à mes proches et passer aux autres. Ce qui est dommage, c'est qu'on réalise pas que le but de ma démarche est plus grand que ça. Moi je parle ici pour mes sœurs et frères qui se battent jour et nuit contre l'ordinaire. Il y a mille façons de faire, moi j'ai choisi le show. C'est pas facile, clair, mais je fais ce qu'il faut. Donc je vise très haut, et plus encore, tu dis que c'est trop. Et alors, j'irai jusqu'au fond, et si c'est un mirage, je remercierai le ciel pour le stage. Sur un show, mais j'y crois, je ne vis que pour ça. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde, chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. Si on fout, mais j'y crois, je ne vois plus que ça. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent, je vous le dis en vérité, une nouvelle ère arrive. Voilà, je vous explique, je viens du bas, au cœur de mer Afrique, c'est le Rwanda. Tu vois, j'ai même pas le choix, on n'a pas de George Weah ni de Cavana. Alors je suis beaucoup plus pour porter la torche, et beaucoup moins pour frimer dans ma prochaine Porsche. Je le dois à tout un peuple de briller fort, aussi fort que je le peux, ce qui est ton tort. En plus, honnêtement, je le cache pas, j'aime bien le luxe, y'a rien de mal à ça. J'en vois déjà sourire quand ils seront fauchés, que je retendrai des chèques pour leur payer le loyer. Donc je vise très haut, et plus encore, tu dis que c'est trop. Et alors, j'irai jusqu'au fond, et si c'est un mirage, je remercierai le ciel pour le stage. Sur un show, mais j'y crois, je ne vis que pour ça. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde, chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. Sur un show, mais j'y crois, je ne vois plus que ça. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent, je vous le dis en vérité, une nouvelle ère arrive. Sur un show, mais j'y crois, je ne vis que pour ça. J'irai au bout du monde, chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. Si on fout, mais j'y crois, je ne vois plus que ça. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent, je vous le dis en vérité, une nouvelle ère. J'ai gagné, je vous dédie
Paris, j'irai au bout du monde. Chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. C'est en fou, mais j'y crois. Je ne vois plus que ça. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent. Je vous le dis en vérité, une nouvelle ère arrive. C'est en fou, mais j'y crois. Je ne vis que pour ça. De Montréal à Paris, j'irai au bout du monde. Chercher l'inaccessible, y'a que ça qui compte. C'est en fou, mais j'y crois. Je ne vois plus que ça. Alors que tous ceux qui rêvent d'un pas me suivent. Je vous le dis en vérité, une nouvelle ère arrive. Ouais. Que ceux qui rêvent, qui croient, chantent avec moi.
C'était l'économie en direct avec Jacqueline Voraz.
Si vous nous rejoignez, oui, c'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Romain, vice-président de CYU, Innovation et Transfert, manager du PUI CY Transfert, manager du bureau CY Transfert et Pierre Derico, responsable du département commerce et territoire à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Alors Olivier, avec vous, nous sommes en train de parler de cette mise sur rail du PUI, le pôle universitaire d'innovation, un appel à projet auquel l'université CY a répondu avec succès. Donc vous avez des échéances forcément dans cette labellisation. Quelles sont-elles ces échéances, Olivier?
Rebonjour Jacqueline, rebonjour à tous. Donc effectivement, c'est un label en fait qui est donné pour 4 ans avec une évaluation à mi-parcours qui aura lieu l'année prochaine déjà, en juin ou mai-juin 2024. Et on sera jugé en fait sur les actions qu'on aura développées et surtout les résultats
oui.
qu'elles auront produites en termes d'indicateurs. Alors je vais pas vous faire la liste de tous les indicateurs, il y en a déjà à peu près une quarantaine qui nous ont été donnés, dont des indicateurs qu'on a pu même nous choisir, voilà. On a eu la possibilité d'en avoir 4 qu'on a définis en fonction des orientations de notre PUI sur des aspects de parité, de projets à impact, de nouvelles formations aussi à l'innovation et un dernier qui est sur l'accompagnement de la recherche sur le volet SHS en fait.
Alors quand vous dites que vous allez devoir fournir des résultats, ça veut dire que vous allez lancer tous azimuts des recherches, mais comme nous le disait François Daoust, il faut du temps quand même pour prouver ce que vous allez mettre en route, donc ce sont pas des résultats, ce sont plus dans les recherches que vous allez mettre en route ces résultats.
Alors en fait, peut-être pour revenir sur le cœur du PUI,
oui,
en fait,
oui.
il y a 2 axes dans notre PUI. Le premier, c'est d'accompagner en fait les entreprises.
Oui.
On va répondre aux besoins des entreprises. Donc ça, c'est assez simple, puisque le besoin vient de l'extérieur.
Il est exprimé, donc il suffit d'y répondre.
Notre seule difficulté, et c'est pour ça qu'on a construit ce réseau de partenariats avec des acteurs de territoire, c'est de pouvoir capter en fait, capter ce besoin. Et on a besoin, dans ce cadre de ce PUI, en fait, d'une articulation fine avec ses partenaires, de telle manière à déjà ne pas avoir de dilution dans ses remontées, mais aussi d'aller le plus vite possible, comme vous l'avez dit. Et deuxième axe, en fait, qui effectivement prend un peu de temps, mais en même temps, on n'a pas attendu le PUI pour le développer, c'est celui, en fait, de la valorisation des activités de la recherche ou l'accompagnement de start-up qui vient de nos collègues enseignants-chercheurs ou personnels de la recherche, ou de start-up qui seraient créées par des étudiants.
Oui,
donc
oui.
là, en fait, on a construit effectivement un programme qu'on est en train de mettre en place. Et pour ce qui émane en fait de nos laboratoires, effectivement, il y a une certaine latence. Donc le travail qu'on a mené au moment de la construction du PUI, c'est déjà d'identifier au plus tôt Quels pourraient être ces potentiels projets qu'on pourrait accompagner en priorité de telle manière à répondre en fait aux objectifs. Et ça, c'est on a travaillé en fait sur ce deal flow et on est en train de le mettre en place.
D'accord. Une des particularités aussi du PUI, je voulais revenir dessus, c'est j'ai noté une gouvernance unique des initiatives sans ajouter de strates administratives supplémentaires. Expliquez-moi ça.
Alors en fait, c'était un prérequis dans cet appel à projet, c'est de pas faire de millefeuille, de pas recréer en fait de structure. Ça, c'était pour l'ensemble de tous les PUI. Donc effectivement, nous, au niveau de notre PUI qui s'appelle CY Transfer, on a capitalisé sur un service naissant et existant au niveau de l'université, de CY Paris Université, qui était le service que je dirige, qui est CY Transfer. Donc l'objectif, c'est d'en faire de ce service, en définitive, l'outil de pilotage du PUI qui s'articule avec, bien évidemment, les instances des autres partenaires. Donc on ne change pas les instances chez les partenaires, on s'articule par rapport aux instances des autres partenaires.
D'accord, très bien, oui, c'est ça, c'est vous avez la base de CY Transfer qui vient vous soutenir pour, dans ce projet. Donc là, vous avez de votre côté aussi lancé des... Alors, on va pas parler d'appel à projet, mais vous avez lancé des demandes pour que des startups répondent aux recherches que vous avez mises en route.
Alors on a des projets, on a déjà un programme par exemple sur le pan de l'éducation qui s'appelle CY Tech Lab. Vous aviez fait une émission sur CY Tech Lab.
Absolument.
Isabelle Hofken qui dirige ce programme était venue. Donc c'est un programme
avec les candidatures en Angleterre, c'est
exactement,
ça
exactement avec UCL. Donc c'est un programme en fait, on est en train de définir le deuxième étage en fait de ce programme là, c'est-à-dire en sortie de programme d'accompagner les porteurs de projets sur nos structures de recherche. Et effectivement, le PUI est un cadre qui peut être aussi un cadre financier pour accompagner ces startups. Après, on a aussi des volontés qui viennent de nos enseignants chercheurs ou personnels de la recherche de créer leur structure qui valorise leur activité de recherche. Donc ça, on les accompagne. On a des projets de prématuration-maturation, dans lequel on est impliqué, qui permet d'avoir des premiers niveaux de financement pour accompagner la recherche à un niveau de maturité technologique. On parle d'échelle TRL. Donc là, en sortie de programme, on est en échelle TRL 3. Et puis après, j'en parlais en préambule, la BPI a un nouvel outil qui est très intéressant dans le cadre des PUI, c'est le BFT Lab, qui permet aussi d'accompagner, en vue d'une création d'entreprise, des projets, ou plutôt, sur des dimensions complémentaires, par exemple de protection intellectuelle, de propriété intellectuelle, pardon, de positionnement marché, de développement business, de renforcement d'une équipe. Donc, on est en train de casser en fait les chaînes de valorisation dans le sens où on était très séquentiel historiquement et là on va être de plus en plus parallèle, c'est-à-dire en même temps d'accompagner, on va dire, une innovation d'un laboratoire, on commence à sécuriser les autres dimensions.
C'est
en
ça,
vue
tout,
de créer
tout va être transversal.
Exactement.
Finalement. Oui, c'est tout l'intérêt de pouvoir apporter justement une innovation certainement performante.
Alors, c'est intéressant sur certains champs disciplinaires. Par exemple, si on prend le champ de la bio ou de la pharma, on est sur des choses qui sont assez longues pour être valorisées. Donc là, justement, c'est un intérêt de diviser par deux ou par trois ces temps. Après, effectivement, sur d'autres domaines, par exemple l'IT, tout ce qui est informatique, vous avez parlé un peu d'intelligence artificielle, ça va très très vite, donc on n'aura pas un gain substantiel en termes de création d'entreprise en durée. Mais en tout cas, sur des champs qui sont historiquement assez longs, effectivement, on cherche à diviser par deux ou par trois.
Alors, parce que Pierre Derico est avec nous là aujourd'hui, vous nous avez dit, Olivier Romain, que la gastronomie pouvait faire partie de vos recherches. Vous pouvez nous donner un exemple ?
Oui. Alors, on a une école d'application, CY Gastronomie déjà, ça fait sens par rapport à la formation. Et vis-à-vis de la food tech, la food, en fait, c'est très pluridisciplinaire parce qu'on peut adresser des champs qui sont plus en lien avec l'agro, l'agronomie, avec tout ce qui est la biologie, la santé, mais aussi ça peut être sur du design, design de produits par exemple, ça peut être sur de l'intelligence artificielle en lien avec de la food pour manger mieux, pour développer, pourquoi pas avec ChatGPT, des menus, des recettes.
Oui, c'est ça. Voilà,
c'est très pluridisciplinaire.
Vous êtes en train de donner plein d'idées à Pierre.
Oui, j'ai noté.
Je crois que Pierre, justement, vous avez une émission, vous avez eu une réunion il y a peu sur l'intelligence artificielle auprès des commerçants. Donc, ça rejoint un petit peu ce que
dit Olivier. Avec les collectivités locales, mairies et agglomérations, on a parlé de ça et c'est un sujet passionnant qui est en devenir, certes, mais pour lesquels ces collectivités ont marqué beaucoup d'intérêt.
D'où l'intérêt de vous rapprocher de CY pour vos recherches.
Bien entendu, et l'innovation.
Olivier Romain, la question que je me suis posée aussi, c'est quelle tendance va-t-il y avoir entre les différents PUI labellisés ? Est-ce que ça va être de la concurrence, de l'émulation, des partenariats ?
Alors, il n'y a pas de concurrence parce que, en définitive, on est passé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'un stade de concurrence à plutôt un stade d'examen. Et en même temps, en fait, de ce changement de philosophie, on a la BPI qui nous accompagne beaucoup, en fait, sur ce réseau des PUI avec du partage de bonnes expériences. Personne, en fait, a le savoir ultime, en fait, en innovation, et il faut s'inspirer des bonnes pratiques sur chaque écosystème. D'autant plus que chaque écosystème est vraiment différent. Donc, on a eu des séminaires lors de la construction, en fait, de ce PUI avec d'autres porteurs, et c'était extrêmement intéressant de pouvoir se nourrir des autres initiatives, comme nous, on a pu aussi apporter des éléments par rapport à d'autres PUI. Donc, on est plutôt sur ce réseau. Pas de concurrence directe. On travaille tous pour l'horizon d'être une start-up nation de toute façon.
2030, oui. Alors, on a bien compris que la notion de territoire était à comprendre à différentes échelles, hein, agglomération, département, région, nationale, voire internationale. Aujourd'hui, quels sont vos besoins, Olivier Romain ?
Alors nos besoins, ils sont assez simples en définitive, c'est-à-dire que on doit finaliser déjà la contractualisation avec les partenaires.
Oui.
Donc tous ceux qui ont émis le souhait d'être partenaires du PUI, on doit contractualiser avec eux et on doit vraiment travailler sur notre synergie, sur le partage des informations, le partage des programmes. Par exemple, Pierre évoquait sur la food tech, je pense que on pourrait aussi voir dans quelle mesure le PUI pourrait accompagner ces dynamique territoriale de food, comme pour les sciences de l'éducation ou autres filières stratégiques en deep tech. Nous, nos besoins, en fait, c'est de capter le besoin des entreprises. Et ça, c'est extrêmement compliqué, en fait, pour les universitaires, comme je suis. Tout simplement parce que, en fait, il y a des codes à casser par rapport aux industriels vis-à-vis de la recherche académique. Les codes sont simples. C'est ça comprend rien, un chercheur. Ça veut toujours protéger un chercheur. C'est lent, un chercheur. Et puis, ça a une blouse blanche, un chercheur. Un chercheur de 2024. Un chercheur, ça répond aux besoins très rapidement d'un besoin d'une entreprise. Ça comprend une entreprise de plus en plus, un chercheur. Si je voulais dire quelque chose vis-à-vis des entreprises, n'ayez pas peur de venir à l'université parce que c'est un lieu sur lequel il y a aussi des équipements d'excellence qui sont financés par des programmes qui permettent d'accélérer des entreprises.
Complètement. On a tenté chez IDFM de vous mettre en lien justement avec des entreprises parce que notamment j'avais fait venir avec Pierre Vist une entreprise qui est dans le prêt-à-porter mais de luxe et il a exprimé des besoins. Alors je ne sais pas si ça aboutit finalement.
Ça marche. Ça commence à faire boule de neige. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant en fait, c'est de trouver des ambassadeurs. Quand on a des ambassadeurs, du coup, en fait, les entreprises viennent plus naturellement parce que, effectivement, un industriel qui parle à un autre industriel, le message passe plus facilement.
Oui, 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 oui. Et je suis surprise des freins dont vous venez de parler, parce que Seaway Transfer maintenant a quand même une vraie réputation. Donc malgré tout, les entreprises restent sur ses fondamentaux.
C'est très très compliqué parce qu'en fait, il y a une culture industrielle de la concurrence aussi.
Ah oui.
Donc il y a des filières qui sont assez stratégiques quand même dans le département, et les gens ont du mal en fait à parler librement aux universitaires, même si on s'émette tout ce qu'il faut pour protéger en fait le savoir d'une entreprise. En termes de besoins,
oui.
Juste une petite information, on va créer un événement majeur sur le territoire en 2024, donc le 28 novembre 2024, et j'espère que la radio sera présente à nos côtés pour retransmettre
pour
en direct,
là, oui.
Qui sont les Assises de l'innovation. Donc un workshop sur un ou deux jours, on est en train de le co-construire avec les partenaires, où on va faire un 360 degrés de toutes les initiatives en innovation qu'on peut trouver, mais pas que du point de vue académique, mais aussi du point de vue des start-upers, du point de vue des industriels et du point de vue aussi des acteurs économiques de terrain. Et on espère aussi que la CCI sera présente à nos côtés pour pouvoir porter cet événement majeur. On a déjà la BPI avec le Deep Tech Tour, qui passe le 28 novembre. Ça, c'est acté. Il nous manque un lieu totem d'innovation sur lequel on pourra faire ces assises et la construction de ce programme.
Très bien. Donc, on a bien compris que vous aviez un focus plus spécifique sur le territoire du Val d'Oise et puis sur l'implication du PUI sur le territoire en réponse aux besoins des acteurs socio-économiques. C'est vraiment votre feuille de route.
Là, en fait, on capitalise dans un premier temps sur le Val d'Oise, mais effectivement, on a une couverture qui est plus large.
Oui.
Ce qu'il faut quand même dire, c'est que dans notre PUI, on a l'université de Sorbonne Paris Nord qui est partenaire et qui devrait normalement devenir membre fondateur aussi de notre PUI l'année prochaine. Sorbonne Paris Nord, c'est un peu le frère jumeau de Cergy Paris Université, puisqu'on est à peu près sur les mêmes nombres de laboratoires, le même nombre d'étudiants, et on est assez complémentaires. Donc on est deux universités, on va dire, deux poids dans le nord-est, pour porter ce PUI. Effectivement, ce qu'on fait cette année plus sur le 95, on le fera peut-être plus l'année prochaine sur le 93 ou sur un autre lieu en France.
Donc si des entreprises nous écoutent aujourd'hui, comment font-elles si elles veulent participer à ce projet ?
C'est très simple, il suffit d'envoyer un mail à cytransfer.cyu.fr ou olivier.romain@cyu.fr. On trouve un créneau, on en discute et le PUI est ouvert à tous.
C'est ça, nous l'avons dit avec François Daoust, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Oui, il n'y a pas de frais d'inscription au PUI, c'est gratuit. On est là pour co-construire ensemble et démontrer qu'effectivement, on a un territoire qu'on pourra bientôt qualifier de place to be.
Oui, on va essayer de continuer à être un ambassadeur pour vous mettre en lien avec ces entreprises. Merci infiniment, Olivier Romain, pour cette présentation.
Merci, Jacqueline.
Et puis surtout, félicitations pour avoir franchi brillamment la qualification de CY parmi toutes les candidatures à cet examen de PUI. Merci à vous.
Merci, Jacqueline. Juste une dernière petite
chose.
Je vous en prie. C'est un jour particulier pour moi, le 29 mars, puisqu'aujourd'hui, en fait, je fête mes 50 ans et vous me faites un beau cadeau.
Ah, bah écoutez, très bon anniversaire. Et vous ne les faites pas du tout, Olivier.
Merci beaucoup, Jacqueline.
Merci, bon anniversaire. Bon, quelques notes de musique, eh bien déjà pour l'anniversaire d'Olivier, et puis avant de retrouver notre troisième invité, Pierre Derico, dans quelques minutes. À tout de suite.
Sapphire and moonlight, we'd ever dance for hours in this tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. It felt like oh la la la, yeah. I love it when you call me.
C'est toujours l'économie en direct, une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site idfm98.fr. L'innovation, c'est le thème central du jour et je suis toujours en compagnie de CYU et la CCI 95. Avec moi dans le studio, Olivier Romain, vice-président de CYU, innovation et transfert, manager de PUI, du PUI CY Transfer, manager du bureau CY Transfer et Pierre Derico, responsable du département commerce et territoire à la CCI du Val-d'Oise. Et sans plus attendre, Pierre Derico, voilà, pour vous aussi, un repas, un cadeau, c'est reparti. Le jeu concours pour soutenir les restaurateurs et métiers de bouche du Val-d'Oise. Un jeu concours dont on peut dire qu'il a fait ses preuves.
Oui, c'est notre troisième édition, puisque nous l'avions lancé à l'issue du déconfinement pour aider les restaurateurs et les brasseries à retrouver leurs clients, encourager les clients à revenir dans les établissements. Donc il y a eu une première édition en 21. Il y a une deuxième édition fin 22, enfin deuxième semestre 22 et premier semestre 23. Et nous lançons nous avons lancé le 16 mars dernier jusqu'au 16 juin et à nouveau du 16 septembre au 16 décembre. Donc pour le printemps et pour l'automne-hiver ou l'automne, la troisième édition de Un repas, un cadeau. L'objectif, évidemment, j'évoquais l'édition de 21 qui s'est faite à partir du déconfinement et du souhait de donner un appui, un accompagnement, une aide aux professionnels de la restauration. L'objectif maintenant au-delà de ça, bien entendu, puisqu'on a depuis fin 22, la Chambre de Métiers est partenaire de cette opération, et nous touchons aussi donc les professionnels de l'alimentation, les commerçants alimentaires qui proposent un repas. Les boulangers, les traiteurs, ceux-là sont aussi dans la boucle. Le principe reste le même malgré tout. Le client qui consomme un repas pour 12 euros,
oui.
La barre a baissé, elle était de 15 pour
c'est ça ce que j'allais vous dire, vous avez baissé le...
On est passé à 12 euros pour s'adapter notamment au repas, au déjeuner.
Oui.
Au frais du déjeuner.
Peut-être aussi par rapport à la, comment, au problème de d'inflation qu'il y a eu.
Il y a ça aussi, l'inflation aurait peut-être pu aussi nous faire monter la barre,
mais,
malheureusement.
Oui, mais du coup, les gens sont moins riches, donc voilà.
Et entre autres aussi pour permettre aux commerçants alimentaires, qui les boulangers qui peuvent proposer des salades, des formules, à pouvoir permettre à leurs clients de participer. Donc le client qui, chez un commerçant alimentaire ou dans un restaurant, consomme un repas, donc c'est pas pour des bonbons chez le boulanger, c'est un repas.
Un vrai repas.
Peut jouer, donc c'est assez simple, il y a un QR code, il indique ses coordonnées ainsi que celui du restaurant, et il scanne ou il photographie le ticket de caisse. Et il y a un tirage au sort tous les 15 jours. La nouveauté, c'est là aussi. Le tirage au sort était hebdomadaire, il est maintenant bimensuel.
Oui.
Il y a un tirage au sort et il y a un lauréat qui sort gagnant, tirage au sort, à qui est attribué un lot spécial Val-d'Oise. Donc ce sont des lots qui vont entre 180 et 300 euros selon les semaines.
Lots,
Souvent pour cette édition-ci, il y a plusieurs lots d'ailleurs par semaine attribués au même gagnant. Et l'on s'efforce d'organiser la remise du lot dans l'établissement, dans le commerce qui a permis à son client de gagner. Ça se fait avec le donateur, ça se fait bien sûr avec le client et le professionnel, mais on invite aussi et ils viennent, la mairie. L'adjoint au maire au commerce.
Oui, c'est un vrai événement.
Voilà. Et les partenaires, que sont la Chambre de métier, qui est depuis 2 ans fidèle à cette opération, et Amerson Les Trois Fontaines, la foncière qui gère le centre commercial de Cergy, qui est aussi notre partenaire, sont invités pour cette petite manifestation qui dure un quart d'heure, mais qui est conviviale et qui permet de braquer le projecteur sur l'établissement, puisque tous les 15 jours aussi, il y a un article de presse, il y a un partenariat avec Le Parisien, Actu et La Gazette, et il y a un article qui relate la remise de l'eau. Donc c'est de la promotion, de la communication pour les professionnels de l'alimentaire, restauration, commerce alimentaire du Val d'Oise. Mais ça s'inscrit. Je parle beaucoup, pardon, Jacqueline.
Non, mais je vous en prie.
Ça s'inscrit dans une logique qui est celle de la Chambre de commerce, avec d'autres opérations partent de l'idée que les entreprises dans le Val d'Oise doivent constituer un réseau, qu'il y a une part d'alimentaire, de gastronomie, de bistronomie qui est tout à fait appréciable dans le Val d'Oise.
Complètement.
Qu'il y a un travail à faire pour développer l'attractivité commerciale, culturelle, touristique du Val d'Oise, notamment avec des endroits magnifiques comme le Vexin, comme les Trois Forêts, comme autour de Soisy, comme dans le nord-est du département. Et la restauration, le commerce alimentaire fait partie de cette logique. Donc pour les réseaux, on a proposé depuis quelques années le réseau Made in 95, qui regroupe maintenant près de 1200 entreprises du Val d'Oise qui commencent à se connaître et à travailler entre elles.
Un réseau et un label.
Et un label.
Oui.
On a le salon Effervescence qui réunit aussi, c'est la semaine dernière que s'est tenu à Herblay.
Oui, oui.
La dernière édition du salon Effervescence.
La 11e édition, oui.
Et on a lancé l'an dernier la première édition du challenge Innovalim 95. Et là, on revient sur l'alimentaire, où l'on a proposé donc aux entreprises de l'alimentaire, mais ça va du producteur agricole, au restaurateur, en passant par le commerçant alimentaire ou les services qui proposent donc des services au secteur de l'alimentaire et qui ont une innovation à mettre en avant. Donc, je suis très intéressé par ce que Olivier nous disait sur ce sujet-là, parce qu'on a souhaité il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont été primées, 23 entreprises, restaurants ou brasseurs, traiteurs, j'en passe, qui ont été primées parce qu'ils avaient une innovation à mettre en avant, soit dans le digital, soit dans la RSE, soit dans le développement durable, ou même dans l'innovation culinaire.
Oui. Hein. Oui, oui,
donc tout ça, il fait partie d'un package que nos élus, Pierre Cuchelet en particulier, notre président, ont souhaité. Un repas, un cadeau.
Oui.
N'est pas seulement qu'une opération de soutien aux restaurations, au domaine de la restauration ou du commerce alimentaire, ça s'inscrit dans cette logique que veulent la Chambre de commerce et aussi la Chambre de métier d'ailleurs.
Voilà, de valorisation du territoire tel que vous le faites déjà depuis de nombreuses années et avec succès, il faut le dire. Moi, je voudrais juste revenir sur l'aspect un petit peu plus technique hein, de ce concours. Un repas, un cadeau. Donc, vous l'avez dit, il suffit de consommer pour 12 euros minimum dans un restaurant ou chez un traiteur. Les cadeaux qui vont être proposés, donc vous l'avez dit, 180 euros à 300 euros la valeur. Donc, il y aura des entrées pour des parcs de loisirs, des bons d'achat,
oui.
Des déjeuners ou des dîners dans de prestigieux restaurants,
oui.
Des objets d'art, des jeux sur le thème de la gastronomie,
oui.
Des livres,
oui.
Tous issus du Val d'Oise.
Tous issus du Val d'Oise, des produits d'artisanat du Val d'Oise que la Chambre de Métiers met à notre disposition.
Et donc vous allez, je pense que vous allez distribuer aux restaurants et commerçants des affiches et des chevalets de table hein, pour permettre de flasher un QR code pour jouer. Mais ce que je voulais préciser, c'est que il est même si cette affiche ne figure pas chez le restaurant, dans le restaurant ou chez le commerçant.
Le client peut jouer aussi.
Le client peut jouer.
Il n'y a pas une inscription préalable de la part des professionnels, restaurateurs ou commerce. Ils sont tous inscrits.
Ils sont tous invités à participer.
Ils sont tous invités à participer ou à faire participer leurs clients. Et le client, s'il n'y a pas de matériel ou si le matériel n'est pas mis à disposition par le professionnel, alors que normalement,
oui, ça devrait être le cas, oui.
Des affiches,
oui.
Et des flyers et des chevalets, le client peut, parce qu'il a de son côté un flyer, parce qu'il y a des flyers grand public qui vont être aussi distribués, ou sur le site de la chambre,
oui.
Il peut s'inscrire.
C'est ça. Ce qui fait foi, c'est la note du restaurant, une fois que celle-ci est réglée, hein, bien évidemment.
Oui, de préférence, oui.
Bien sûr.
De préférence.
c'est mieux pour le restaurant. Mais donc, comme vous l'avez dit aussi, on peut se rendre sur le site de la CCI du Val d'Oise, www.cci95.fr, pour jouer et puis retrouver toutes les modalités de participation.
Et le tirage au sort se fait par huissier. Le règlement est par huissier, tout ça est fait selon
très sérieusement.
Oh, si vous saviez.
Vous-même, Pierre Dorico, vous participez aux remises de l'eau?
J'aimerais.
Vous ne pouvez pas être partout.
Les remises de l'eau, pardon. J'avais compris, participer au jeu. Non.
Ah oui.
En tant qu'organisateur, nous ne pouvons pas participer. Mais Jacqueline, vous pouvez. Olivier, vous pouvez.
Ah, mais on va
aussi,
le faire.
Monsieur, vous pouvez, jusqu'au 16 mars au 16 juin et à nouveau du 16 septembre au 16 décembre. Par contre, oui, je m'efforce d'être aux remises de l'eau. La Chambre est présente. Parfois, c'est un de nos élus, Pierre ou un autre élu qui représente la Chambre, mais nous on est à leur côté pour organiser et cette petite manifestation d'un quart d'heure, 20 minutes, qui est tout à fait sympathique.
C'est ça. Alors aussi peut-être une précision, vous l'avez dit, mais je voudrais dire que donc sont concernés bien sûr les restaurants, les hôtels avec restauration, et puis tous les commerces de bouche, c'est-à-dire c'est les traiteurs, les charcutiers, les boulangers, les rôtisseurs.
Oui.
Ça représente alors en tout, ça fait 2500 établissements.
C'est ça,
hein,
à peu près un peu moins de 2000 restaurants et entre 500 et 600 commerces alimentaires.
C'est ça. Mais c'est hors supérette, super et hyper.
Oui.
Hein, on est bien d'accord. Auprès de vos partenaires de ces restaurants, ils sont contents de renouveler cette opération.
Ah oui, ils sont contents, surtout ceux qui ont permis à un de leurs clients de gagner, parce que le client est satisfait. D'autres clients peuvent avoir envie de consommer pour gagner dans le même restaurant. Et puis il y a cette petite manifestation qui met un coup de projecteur local. Et plus encore quand l'article de presse paraît sur l'établissement.
Est-ce qu'il y a des chiffres à communiquer sur les résultats des précédentes éditions?
Ah ben oui, on a eu pour la précédente édition, la seconde, on a eu une trentaine de restaurants qui ont été ainsi mis à l'honneur, avec donc une trentaine de gagnants. Réparti dans une vingtaine de communes. C'est donc un ancrage territorial qui est intéressant. Et chaque semaine, il y avait, maintenant c'est chaque quinzaine, il y avait entre 100 et 500 concurrents.
Ah oui, oui.
Clients gagnants. Alors c'est pas assez. On pourrait, parce que finalement, heureusement qu'il y a bien plus que 500 consommateurs, mais c'est une opération qui monte.
Il faut du temps pour que ça se mette en place.
Il faut du temps pour que ça se mette en place. Mais c'est zéro, il n'y a aucun coût, aucun engagement.
C'est ça,
pour la
oui,
part
oui. Il y a juste le plaisir de, ouais. de faire un bon repas dans des conditions.
Et en plus de gagner un
agréable.
Deuxième repas éventuel dans un autre restaurant, parce que le donateur est un des restaurants du Val d'Oise.
Voilà, et on a bien compris que le but, c'est d'encourager et soutenir la consommation locale chez nos artisans, commerçants, restaurateurs, en des temps qui sont, on peut le dire, toujours incertains. Oui. Merci Pierre de Rico pour toutes ces précisions et puis bravo hein, pour la reconduction de cette formidable opération voilà, dont la finalité est d'envoyer un message positif et faire des heureux parmi les consommateurs mais aussi les partenaires. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Olivier Romain et Pierre, peut-être juste avant de nous quitter, un petit mot de conclusion, Olivier.
Merci Jacqueline en tout cas pour cette émission. C'est un plaisir d'avoir parlé du PUI. J'espère qu'on aura encore l'occasion d'en parler dans d'autres
aussi,
émissions, de rentrer un peu plus dans le détail des actions, avec des actions qu'on met concrètement en fait pour le territoire, avec des événements qui arrivent prochainement, dès juin aussi.
Oui.
Et les Assises de l'innovation le 28 novembre.
Bah écoutez, c'est des dates qu'on va retenir et bien évidemment, on se revoit avant, de toute façon, avant le 28 novembre. Merci Olivier. Pierre, un mot de conclusion.
Oui, conclusion ou continuation sur ce qu'on vient de dire, en sus de toutes les actions qui sont là pour... organisé par donc la Chambre de commerce en partenariat avec d'autres acteurs pour dynamiser le territoire, accompagner les entreprises. On a aussi un certain nombre d'autres prestations qui sont d'actualité et qui sont proposées notamment aux commerçants et qui sont gratuites. Gratuites parce que financées par la région Île-de-France, par l'État ou dans le cadre du FSE ou du FEDER qui sont des fonds européens. On a par exemple dans le cadre du FSE pour les commerçants un certain nombre d'accompagnements collectifs ou individuels, diagnostiques, sur les questions d'accueil de la clientèle, et notamment de la clientèle étrangère. À l'heure des JO qui arrivent, c'est tout à fait intéressant. Donc, tous les commerçants du Val d'Oise sont concernés. C'est gratuit. Il faut nous contacter sur notre site. Vous avez donné les références tout à l'heure, Jacqueline, et vous le savez peut-être mieux que moi.
www.cci95.fr
Le thème donc de l'accueil de la clientèle, mais on a aussi le thème de l'aménagement de la vitrine et de la boutique. Là aussi, on a une capacité d'accompagner, d'aider les entreprises. Pour certains cas, notamment pour les professionnels du tourisme, lorsqu'il y a un investissement en matière de développement durable, professionnels du tourisme, je pense aux hôtels, aux hébergeurs ou aux restaurants, l'appui ne se cantonne pas au conseil ou au diagnostic, ce qu'il y a sûrement très bien, mais aussi au financement de l'investissement. Avec l'ADEME qui aide pour cela. Donc un hôtel, un hébergeur, ça peut aussi être une maison d'hôte, qui a un investissement en matière de développement durable, photovoltaïque, on change la chaudière, on refait les fenêtres, double vitrage, la récupération d'eau, enfin je ne vais pas multiplier les exemples, il y a un investissement, cet investissement peut être pris en charge un pourcentage très important, entre 50 et 70%, par l'ADEME.
D'accord.
Alors, je le dis parce que, on a une vingtaine de dossiers possibles. Tous ne savent pas. Et j'allais dire, on a encore de la place. Il y a encore la possibilité d'avoir des dossiers dans le cadre du Fonds Tourisme Durable. Là aussi, contactez-nous.
Bien sûr. Bah, écoutez, j'espère que votre appel sera entendu. Et si vous avez besoin qu'on fasse un communiqué de presse, nous n'hésiterons pas à le faire passer. Merci en tout cas d'avoir été les invités en direct de chez IDFM Radio. Merci Christophe pour la technique qui est revenue. Merci à vous tous de nous avoir été fidèles comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'oubliez pas, vous pourrez la retrouver à tout moment en podcast disponible sur le site idfm98.fr. Mardi prochain, on se retrouve à 9h30 et là nous parlerons de la crise dans l'immobilier. Mais d'ici là, belle journée et bon week-end.
One, two, three, four, tell me that you love me more. Sleepless, long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes are right at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, 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 you're changing your heart. Oh, 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 you know who you are.
and money can't buy you back the love that you had there.
J'ai 18 ans, on volait ma virginité, je suis plus un enfant. L'horloge tourne, les minutes sont torrides, et moi je rêve d'accélérer le temps. Dame, dame, de haut, oh, oh, oh. Dame, dame, de haut, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 20 ans. On l'a fait sans se protéger, mais je veux pas d'un enfant. L'horloge tourne, les minutes infanticides, et moi je rêve de remonter le temps. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 21 ans. 9 mois se sont écoulés, et toujours pas d'enfant. L'horloge tourne, les minutes se dérident, et moi je rêve, tranquille je prends mon temps. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Dame, dame, des hauts, oh, oh, oh. Un SMS vient d'arriver, j'ai 25 ans. Tsunami a tout emporté, même les jeux d'enfants. L'horloge tourne, les minutes sont acides, et moi je rêve que passe le mauvais temps.